Bonsoir. Préparatifs du second tour de la présidentielle et des élections provinciales. À une semaine du début de la campagne électorale pour le deuxième tour de la présidentielle, à quand le dépôt des listes des témoins de deux candidats qualifiés pour le second tour auprès de la commission électorale indépendante? Le dépôt des listes des témoins de deux candidats à la présidentielle va-t-il contribuer à réduire les irrégularités et autres contestations relevées lors du premier tour? Et que reste-t-il à régler pour avoir des élections transparentes? Le débat de ce soir tournera autour de ces questions. Trois invités ont accepté de répondre à ces interrogations. Dieudonné Mirimo, rapporteur de la Commission électorale indépendante, CEI, qui intervient depuis Kananga au Kasaï occidental. Roger Lumbala, porte-parole de l'Union pour la Nation, plateforme politique soutenant la candidature du vice-président Jean-Pierre Bemba, qui n'est pas encore là mais qui va sûrement nous rejoindre. Et Chikez Diemo, vice-gouverneur du Katanga, chargé de l'économie et des finances, et membre de la plateforme Alliance de la majorité présidentielle, plateforme politique soutenant la candidature du président Kabila. Certains auditeurs ont émis leur point de vue sur le thème de ce soir. Déborah, depuis Goma au Nord Kivu, voudrait que les deux candidats préparent leurs témoins pour les prochaines élections afin d'éviter le vocabulaire tricherie. Nous ne voulons pas l'entendre, dit-elle. Tandis que J.B. Bianga, d'ici, dans la province orientale, pense qu'envoyer les listes à la CEI ne suffit pas. Il faut que pendant le vote, ces témoins des partis politiques soient dans tous les bureaux de vote pour ne plus accuser la CEI de partialité et de tricherie. Enfin, Marc Bononga, locos de Mbandaka dans l'Équateur, propose que pour éviter la tricherie, le dépouillement s'efface le même jour devant les témoins et les résultats transmis à la hiérarchie de la CEI ce même jour également.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099-8-999-222.
À quand le dépôt des listes des témoins de deux candidats auprès de la Commission électorale indépendante? C'est la première question que je vous pose d'abord à vous, M. Chikez Diemo. Je rappelle que vous êtes vice-gouverneur du Katanga, chargé de l'économie et des finances et membre de l'Alliance de la majorité présidentielle. Vous venez d'ailleurs d'être élu à la nouvelle Assemblée nationale. À quand le dépôt des listes des témoins de l'AMP auprès de la CEI?
Je voudrais, cher ami, vous remercier pour m'avoir donné cette opportunité que d'échanger. Je pense que nous devons nous habituer à suivre les textes. Quand je parle de ça, il faut voir la loi électorale. Si j'ai bonne mémoire, en son chapitre 5, l'article 40 stipule très clairement que l'attribution, les choix des témoins du mandat des partis, des regroupements ou des indépendants, dès lors qu'ils auront choisi leurs témoins, dans les 5 jours avant la tenue de scrutin, ils déposent. Évidemment, la CEI est supposée accréditer ses témoins, mais cette accréditation devra intervenir 5 jours avant la tenue des élections. Que vous me posiez la question de savoir à quand les dépôts. Ayons la culture des textes. Si l'on peut les déposer un peu plus tôt, tant mieux. Mais que je sache, si les élections sont maintenues à la date proclamée, on est encore dans les temps.
Donc, ce qui signifie que vous n'avez pas encore déposé ces listes au niveau de l'AMP, la liste de vos témoins.
Peut-être pas, je ne voudrais pas dire ça. C'est que notre état-major, ça déploie à moi sincèrement, d'autant plus que ces préparatifs du second tour nous préoccupent. Nous sommes vraiment bien préparés pour que, en son temps, on dépose toutes ces listes-là.
Monsieur Dieudonné Mirimo, vous êtes rapporteur de la Commission électorale indépendante et vous intervenez depuis Kananga dans la province orientale. Est-ce que les témoins de deux candidats présidents de la République pour le second tour, est-ce qu'ils ont déjà déposé les listes de leurs témoins selon que la presse l'avait indiqué?
Je voudrais bien préciser que lorsque nous avons rendu public le calendrier électoral, nous avons indiqué que l'accréditation des témoins avait commencé et ça allait jusqu'au 22 octobre 2006. Lorsque nous avons eu des concertations avec les mandataires des deux candidats, nous avons demandé que nous pouvions, à partir de Kinshasa, centraliser l'accréditation des témoins pour autant qu'ils nous déposent la liste de ces témoins dans un délai relativement bref. Sinon, l'accréditation des témoins se passe dans le BRP, dans le BL, tel que cela a été fait lors du premier tour de présidentiel. Donc, comme vient de le dire l'honorable Tshitshikedze, s'ils ne l'ont pas fait jusque maintenant, ils ne sont pas en retard, parce que là, ils pourront déposer les listes dans les BRP et dans les BL, et là, on pourra accréditer les témoins de ce candidat.
Voilà, comme ils sont dans le temps, excusez-moi donc, M. Mirimo, il intervient depuis Kananga dans la province du Kasaï occidental et non pas de la province du Kasaï oriental, j'ai commis une erreur.
Depuis Chimbulu précisément.
Depuis Chimbulu au Kasaï occidental. Voilà, est-ce que le fait de, M. Dieudonné Mirimo, est-ce que le fait de, pour les partis représentant les deux candidats au deuxième tour, dépose les listes en bonne et due forme, est-ce que cela peut contribuer à réduire les irrégularités et autres contestations relevées lors du premier tour?
Nous avons voulu effectivement tirer les leçons de ce que nous avons connu au premier tour et chercher à maximiser toutes les chances possibles en centralisant l'accréditation des témoins au niveau de Kinshasa. Parce que nous avons reçu des informations selon lesquelles il y a certains témoins soit qui n'ont pas reçu des macarons, soit qui n'ont pas été accrédités. Et nous avons voulu donc que tout se passe à Kinshasa dans la mesure du possible pour que tous les candidats aient les macarons de témoins. À ce moment-là, nous sommes sûrs que tous les témoins sont accrédités et sont déployés tels que les mandataires l'auront voulu.
Voilà. Nous devions avoir en principe dans ce studio un représentant de l'Union pour la Nation, plateforme soutenant le candidat Jean-Pierre Bemba. Malheureusement, Roger Lumbala n'est toujours pas là, malgré le fait qu'il nous avait donné sa parole d'honneur, qu'il serait là. Malgré cela, nous allons continuer cette émission. Nous avons ici M. Tshitshikedze Guémo, qui représente la plateforme AMP, Alliance de la Majorité Présidentielle, qui soutient la candidature du candidat Joseph Kabila. Monsieur Tshitshikedze Guémo, est-ce que vous pensez que le fait d'accréditer, d'envoyer vos listes à temps, d'accréditer les témoins, pourrait réduire les irrégularités et contestations qui ont été relevées lors du premier tour de la présidentielle?
Merci bien pour cette question qui préoccupe les gens, mais il me semble qu'avant de parler d'irrégularité, nous devions circonscrire les problèmes. Irrégularité, c'est facile de les déclarer. Mais de là où je viens, je parle de la province du Katanga, aucune irrégularité n'a été signalée. Alors nous n'allons pas tabler sur ce que moi personnellement je n'ai pas vécu. Autant vous dire, éviter les irrégularités là où il y en a eu, peut-être que c'est un problème sectoriel. Mais si les états-majors se préparent correctement, ce qui fut le cas pour la province là d'où je viens, les témoins ont pris part à cet exercice, du moins historique. Je n'ai pas entendu dire, surtout que c'est des attributions de partis politiques, de regroupements politiques, les indépendants, que de vouloir jeter, n'est-ce pas, l'opprobre, jeter...
Voilà. Puisque vous dites que vous n'êtes pas au courant de irrégularités et autres contestations relevées lors du premier tour, l'un de nos confrères, Freddy Lufulabo, s'y est penché. Voilà, quelles sont les irrégularités et contestations qui ont été signalées lors du premier tour? Nous allons le suivre dans ce récit.
Le jour même des scrutins a été marqué par un climat de violence et d'intolérance dans certains bureaux de vote. D'après le Réseau national pour l'observation et la surveillance des élections au Congo, RENOSEC, qui a déployé 9000 observateurs à travers le pays. Cela s'est passé notamment au Kasaï oriental, dans le Bandundu, à Kinshasa et surtout au Kasaï occidental, précisément à Mweka, où les opérations électorales ont été interrompues pour reprendre un jour plus tard. Selon le centre Carter, qui a également observé ces élections, des changements de dernière minute opérés par la CEI ont compliqué la tâche des observateurs et témoins des candidats. Ces changements concernaient le vote par dérogation, le nombre et l'emplacement des bureaux de vote, la liste des personnes omises sur le fichier électoral. Par ailleurs, plusieurs personnes se sont plaintes du fait que des inconnus avaient déjà voté en leur nom. À Kinshasa, le ramassage des plis contenant des procès-verbaux des votes et des dépouillements s'est effectué en désordre, selon les agents électoraux. Ce n'est pas tout. Dans la province de l'Équateur, les électeurs du centre de Bosso-Lika, territoire de Bolomba, n'ont pas pu voter parce qu'il n'y avait pas de bulletin pour la présidentielle et pas assez pour les législatives. À tout ceci s'ajoute la révolte des agents électoraux, notamment dans la province orientale et à Kinshasa, suite à l'ajournement de la paye de leurs primes. D'où l'incendie des bulletins de vote constaté par le centre Carter au bureau de liaison d'Injili. La question qui se pose alors est celle de savoir comment ces irrégularités seront corrigées pour le scrutin du 29 octobre 2006.
Votre réaction, M. Tshisekedi-Gemou?
C'est bien dommage si ces irrégularités ont été constatées, mais disons-le, si vous voyez l'étendue de la République par rapport à quelques incidents malheureux, du reste, nous ne pouvons pas croire, nous pouvons quand même dire, généraliser que ces irrégularités puissent avoir un impact sérieux sur le processus, dans la mesure où c'est un apprentissage assez difficile, c'est la première fois que nous y allons. Je crois que la réaction de savoir quel est l'impact de quelques cas au Kassai oriental, vous avez dit, c'était peut-être en Bougemaï, à Monet du tout, mais le Kassai oriental n'est pas composé que de ces deux localités. Au Kassai occidental, si telle est la vérité, à Mweka, ce n'est qu'une seule localité, bref.
Mais à Kinshasa,
À Kinshasa, on parle bien d'Njili, à l'Équateur, on parle de Bolomba, si j'ai bien entendu.
Oui.
Il me semble que ce sont des choses sur lesquelles nous devons nous pencher sans beaucoup de sensations pour que nous ne puissions pas, n'est-ce pas, généraliser en disant que tout n'a pas été bien fait. Globalement, même les observateurs ne me contrediront pas en disant que globalement, les choses se sont très bien passées.
Est-ce qu'en accréditant des témoins, vous pensez que ces irrégularités pourraient être évitées?
C'est une bonne chose. Vous savez, les témoins, les irrégularités, peut-être quelquefois imaginaires, pourront être. C'est un élément important dès lors que chacun devra passer ses témoins, c'est un élément majeur, mais il me semble, à quelques exceptions près, il me semble que quelquefois, quand on organise les élections, les perdants, ils ont toujours tendance à dire, c'est un peu partout au monde, que ça n'a pas été régulier, mais ce qui est le plus important pour ma part, c'est que dans l'ensemble, les choses se soient passées correctement.
Votre réaction, M. Dieudonné Mirimont?
Il me semble qu'il faut relativiser tout ce qui a été dit par votre confrère. Parce que les différents rapports des observateurs ont relaté le fait que les élections se sont très bien déroulées, en dehors des cas isolés tels que cela a été relevé, parce qu'effectivement, il n'y a pas d'élection parfaite. Là, je voudrais dire ici que l'accréditation des témoins, elle est importante dans le fait que les témoins observent les opérations du début jusqu'à l'affichage des résultats dans les bureaux de vote. Mais l'absence des témoins dans un bureau de vote ne peut pas être une raison pour dire que les élections ne se sont pas bien déroulées. Et donc, si les acteurs se préparent pour accréditer les témoins dans les bureaux, c'est très bien. Comme ça, ils auront au moins l'occasion d'observer tout ce qui se passe. Mais nous avons tiré les leçons du scrutin du 30 juillet et nous avons corrigé sensiblement, raison pour laquelle nous avons sorti même un aide-mémoire sur lequel nous insistons sur les aspects plus pratiques des opérations lors de la formation des agents électoraux. Mais quand on parle des bulletins qui ont été brûlés à Kinshasa, je crois que ça n'a rien à faire avec les irrégularités qui ont été constatées. Encore que cela a été démontré, ce n'était pas des bulletins qui ont été brûlés, c'était des spécimens de bulletins qui avaient été brûlés.
Mais il y a
parce que les plis d'Enjil ont été retrouvés.
Mais il y a eu quand même des endroits où les gens n'ont pas pu voter, comme à Bolomba.
Tout à fait, à Bolomba, ça nous avons reconnu effectivement. Mais présentement, je crois qu'on ne va pas connaître de tel cas, parce que les bulletins et les kits électoraux sont déployés présentement au niveau des territoires. Et à partir du 15 octobre prochain, on va commencer le déploiement vers les centres de vote. Et on a pris le temps de vérifier si le nombre de bulletins correspond au nombre d'électeurs prévus dans chaque centre de vote.
Voilà, nos auditeurs ont aussi émis quelques préoccupations sur le thème de ce soir. Écoutons d'ailleurs la question de cet auditeur de Bounia dans la province orientale.
Moi, j'appelle depuis Bounia. Mon nom, c'est Otinga Olela. Ma question est de savoir, est-ce qu'avec ce témoin, le candidat peut espérer aux prochaines élections qu'il n'y aura pas de faute?
Votre réponse, M. Tshisekedi-Gemou?
Je pensais l'avoir déjà dit. Vous savez, l'apprentissage démocratique est assez difficile. Nous devrions d'ailleurs, comme beaucoup d'observateurs, respecter ce peuple congolais qui, globalement, a montré sa maturité. Il y aura des fraudes. Mais qui est l'unique personne habilitée, ou je veux dire, institution habilitée à déclarer cette fraude? Est-ce que ce sera tous les candidats? Les exemples font les gens à travers le monde, les perdants. C'est un des arguments souvent pour dire il y a eu des fraudes. Mais je crois que l'unique institution habilitée à déclarer ces fraudes, c'est la CEI. Dès lors que la CEI ne l'a pas dit, dès lors que chacun était supposé mettre ses témoins, je range ces feuilletons de fraude dans peut-être les déceptions. Vous savez, c'est livré à l'exercice du suffrage.
Donc vous pensez, en quelque sorte, vous pensez que si les témoins qui sont sur place signalent certains cas d'irrégularité, cela ne pourrait pas être pris en compte, d'autant plus que ce n'est pas la CEI qui l'a déclaré.
Non, je pense que le mécanisme est très clair là-dessus. C'est pour cela que vous avez choisi avec beaucoup de pertinence la focalisation de votre attention sur les témoins. Donc tout est pris, le mécanisme est fait de telle façon que chacun pose ses témoins dans le bureau de vote. Alors, si vous n'avez pas mis un témoin dans le bureau de vote et par la suite vous déclarez à haute voix qu'il y a fraude, il me semble quelque part qu'il y a quelque chose qui n'est pas sérieux. Suivons notre respect des textes, notre application stricte de ce qui a été convenu communément, je crois qu'est essentiel.
Monsieur Dieudonné Miremont, comment pouvez-vous répondre à cet auditeur?
Vous avez constaté que beaucoup de gens ont parlé d'irrégularité, mais lorsque la Cour suprême a examiné les recours, il n'y en a eu que 8 et tous les recours ont été rejetés. C'est la preuve qu'effectivement, ce n'était pas dans la tête des gens qu'ils ont fabriqué les irrégularités, mais en réalité, il n'en avait pas.
Même les réseaux d'observateurs ont fabriqué...
Les irrégularités constatées, oui. Les témoins les fait consigner sur le procès verbal, à ce moment-là, on en tient compte et on examine. Mais s'il n'y a pas de preuves, déjà quelqu'un peut crier parce qu'il a échoué pour commencer à dire qu'il y avait irrégularité dans un bureau.
Mais certains réseaux ont envoyé, comme le Renault 7, 9000 observateurs à travers le pays. Est-ce que vous pensez que ce qu'ils ont signalé ne vaut pas la peine?
Non, c'est des cas isolés comme je l'ai dit et qui ne peuvent pas influencer les résultats qui ont été publiés. 9000 témoins par rapport à 50 000 bureaux. Je ne pense pas que ça représente l'ensemble du territoire national. Mais nous avons tenu compte des observations de Renault 7 et d'autres observateurs aussi, comme je vous ai dit, pour corriger sensiblement. Et je crois que le scrutin du 29 octobre prochain, les gens vont constater qu'il y aura beaucoup de corrections et il y aura plus de transparence que ceux qu'ils ont observé le 30 juillet dernier.
Voilà, Monsieur Chites Diemo, je reprends la pensée de Pichu Apazoma de Guémena dans l'Équateur qui estime qu'il faut que les deux candidats au deuxième tour de la présidentielle renforcent dans toute l'étendue du Congo leurs témoins pour qu'il n'y ait pas de fraude. Vous pensez qu'il faudra de votre part renforcer la présence de vos témoins?
Bon, je pense qu'elle dit juste, mais peut-être la conclusion, je ne suis pas tellement d'accord avec. Pour sécuriser les uns et les autres, je veux dire les deux challengers et ceux-là qui vont recourir au niveau provincial, je crois que l'emplacement des témoins sécurise, n'est-ce pas, ceux-là qui sont candidats. Est-ce que les témoins en eux-mêmes vont, en quoi ils sont impliqués dans des fraudes? Il faut plutôt sécuriser tout le monde en plaçant des témoins. C'est comme ça que je vois les choses.
Est-ce que vous aviez au premier tour, est-ce que vous aviez envoyé des témoins dans tout le pays, par exemple l'AMP?
L'AMP vient de naître avec le second tour, si j'ai bonne mémoire, ça signifie que sera opérationnel.
Votre parti politique, par exemple, le PPRD?
Tout à fait. Je parle du cas que je connais très bien. Je viens d'une circonscription, la circonscription de Kapanga. J'ai eu affaire à 122 témoins. Et ce que j'avais fait, c'était de les réunir d'abord parce que c'était de nos attributions en tant que parti politique, nous étions responsabilisés. J'ai réuni les 122 témoins pendant 3 jours, j'ai vulgarisé la loi, en leur disant ce qui était attendu d'eux. Dès lors qu'ils sont partis sur le terrain, après les votes, ils sont revenus. Et ce qui a contribué énormément à mon élection.
Mais au niveau, ça c'est pas une campagne pour votre élection, mais, oui. Mais est-ce qu'au niveau du PPRD, vous aviez envoyé des candidats dans tous les pays? Est-ce que ça fait comme ça?
Le vouloir, d'une façon, la volonté était là, mais il faut dire qu'il y a des provinces entre nous, nous devons le dire, là où les gens n'ont pas pu opérer correctement et librement. Je parle de la province que je connais la mieux. Au Katanga, tout le monde s'est livré à cet exercice démocratique sans aucune contrainte. Est-ce que je dirais la même chose dans d'autres provinces, là où c'était l'intimidation, là où on a empêché des gens de voter? Nous avons des preuves pour cela. Il me semble que du point de vue de notre état-major, cela a été fait. Ça signifie dans chaque circonscription, chaque candidat devrait recourir aux témoins. Absolument. Est-ce que ça a marché partout? C'est une autre question. Je vous ai donné personnellement ce que j'ai pu faire. Et je pense que c'est bien, ça sécurise.
Monsieur Dieudonné Miremont, vous êtes rapporteur de la commission électorale indépendante et vous intervenez depuis Chimbulu, au Kasaï occidental. Est-ce que certains partis politiques ont pu envoyer au premier tour des témoins dans tout le pays, dans toutes les circonscriptions?
Peut-être dans tout, peut-être pas dans tous les bureaux, mais il y a eu des témoins presque partout. Mais je voudrais dire ici qu'une chose est d'envoyer les témoins, mais il faudrait que ces témoins soient formés parce qu'ils doivent connaître leurs droits et leurs devoirs. Et si un témoin n'est pas formé, ne connaît pas les droits et les devoirs, ça crée des problèmes dans les bureaux de vote. Donc il est important que les acteurs politiques, lorsqu'ils déploient les témoins, ils puissent les briefer et que ces témoins-là puissent se conformément à...
Allô? Est-ce que vous me recevez? Allez-y.
Oui, ce que j'étais en train de dire, donc c'est une question très importante sur laquelle il faudra revenir. Il faudra vraiment une formation des témoins. Et les témoins sont pris en charge par les candidats et non par la CEI.
Nous signalons que le camp du vice-président Jean-Pierre Bemba avait déploré certaines irrégularités enregistrées lors des scrutins passés. Malheureusement, le porte-parole de l'Union pour la Nation, la plateforme qui soutient la candidature du président Jean-Pierre Bemba, vient de nous fausser compagnie alors qu'il avait accepté l'invitation de dialogue entre Congolais. Voilà, monsieur Roger Lumbala n'est pas là. Nous sommes obligés de continuer cette émission. Nous avons dans ce studio monsieur Chikes Diemo. Vous êtes vice-gouverneur du Katanga, chargé de l'économie et des finances et membre de l'Alliance de la majorité présidentielle. Est-ce que au second tour de l'élection présidentielle et même pour les provinciales, votre plateforme politique, l'AMP, va envoyer des témoins dans les 50 000 bureaux de vote à travers le pays? Est-ce que c'est possible? Vous allez le faire?
C'est assez difficile, je dois le dire, parce que un pays comme le nôtre, à une dimension d'un sous-continent, c'est assez difficile, mais ça passe par là. Si nous voulons être sécurisés et réunir toutes les chances de notre côté, je pense que nous ferons cela, et l'état-major s'y attelle, rassurez-vous que nous ferons de notre mieux pour que cela se passe comme ça.
Monsieur Dieudonné Mirimo, selon Monsieur Bovic Lusungu de Lubumbashi au Katanga, selon lui, Bemba et Kabila doivent demander à la CEI d'être impartiale parce qu'il n'est pas facile de placer dans chaque bureau de vote leurs témoins. Qu'est-ce que vous pensez de cela?
Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il attend par l'impartialité de la CEI, parce que la CEI est effectivement impartiale. Nous déployons les agents électoraux dans tous les bureaux. Et les opérations se déroulent, même sans témoin, mais il y a les observateurs nationaux et internationaux, mais il y a également 5 électeurs qui participent aux opérations de dépouillement.
Voilà. Est-ce que vous pensez que il n'est pas facile, comme le dit notre auditeur, pour les partis politiques qui sont dans la course pour les provinciales et la présidentielle, de déposer, de déplacer, d'envoyer leurs témoins à travers tout le pays?
C'est possible, là je sais que c'est des partis bien organisés et ils sont capables de déployer les témoins dans tous les bureaux parce qu'ils sont représentés dans toutes les circonscriptions.
Il y a aussi M. Keba Lewis, toujours de Lumbashi au Katanga, qui souhaite que la CEI facilite le travail des témoins en mettant à leur disposition tout ce dont ils ont besoin et que les deux partis fassent de même pour l'issue favorable de ce processus électoral. Est-ce qu'au premier tour, vous aviez facilité au niveau de la CEI la tâche aux témoins?
Les témoins ont besoin de quoi? Ils ont besoin d'être accrédités. Ils doivent porter leur macaron bien lisible et rester dans le bureau de vote, assis pour observer les opérations jusqu'à la clôture et observer les dépouillements jusqu'à l'affichage des résultats. Et on leur donne la copie de la fiche des résultats qui est affichée.
Mais
le témoin n'a pas le droit d'influencer le vote. Donc, il n'entre pas dans l'isoloir pour aider un électeur qui ne sait pas lire à voter.
Mais lors du premier tour, certains témoins se sont plaints du fait que la CEI ne leur a pas facilité la tâche.
Bon, je ne sais pas ce qu'ils attendent par faciliter la tâche, parce qu'à partir du moment que vous accédez au bureau de vote, on vous donne une chaise, vous suivez les opérations. C'est ça le rôle du témoin. Il note tout ce qu'il constate. Et lors du dépouillement, il observe les opérations. S'il y a des irrégularités, il les fait consigner au procès verbal. Et on lui remet la copie du procès verbal qui sera affichée, des autres copies envoyées à la Cour suprême, à la CEI et au bureau provincial.
Monsieur Chikes Diemo, vous représentez ici l'Alliance de la majorité présidentielle, plateforme soutenant la candidature du chef de l'État, Joseph Kabila. Est-ce que vous aviez facilité la tâche à vos témoins? Concrètement, qu'est-ce que vous aviez fait pour eux pour qu'ils puissent travailler dans des bonnes conditions et surveiller tout ce qui se passe dans les bureaux?
Le respect des textes établis. Dès lors qu'il était de la charge de partis politiques de recruter les témoins et de s'en occuper, c'est ce que moi personnellement j'ai fait en ce qui me concerne, et je pense que la plupart de mes camarades du parti, ils ont fait la même chose, N'ayez pas peur au regard du nombre assez croissant, n'est-ce pas, des témoins, comme venait de le dire le rapporteur de la Commission électorale indépendante. Un pays qui se veut national, il devra avoir, n'est-ce pas, des structures de représentants, de représentation dans les différentes entités du pays. J'ai fait un petit calcul, tant que nous y sommes, il s'agira donc de 140 000 témoins, correspondant aux 52 000 bureaux. Donc, il me semble que ce n'est pas...
Et vous serez capable de mobiliser tout ce nombre, ces 142 000 témoins?
Ce sont la plupart d'entre eux les membres du parti. Ça fait partie, n'est-ce pas, du travail, du droit de tout sympathisant du parti. Il ne faut pas les voir, les 140 000 témoins dans un lieu. Il faut plutôt vous imaginer qu'ils sont dans des différentes circonscriptions. Faudra-t-il simplement lire les textes, respecter les textes, former ces témoins? C'est pour un jour, deux jours, pour que ces témoins vraiment suivent textuellement tout ce qui est prévu. Je crois que ça vaut la peine au regard de l'importance que revêt, n'est-ce pas, des élections que nous devons faire pour notre pays.
Et au niveau de votre plateforme politique, comment allez-vous vous organiser pour déployer les terrains, est-ce que les témoins sur le terrain, est-ce que ça sera des témoins provenant seulement de votre parti politique, le PPRD, ou ça sera des témoins provenant de partis politiques affiliés à votre plateforme, l'Alliance de la majorité présidentielle?
Je veux dire les deux à la fois, parce que nous sommes une plateforme. Et nous sommes en train de faire une coalition, n'est-ce pas, pour porter le président Kabila vainqueur au second tour. Il est assez simple que de dire le pays est subdivisé en circonscriptions. Le nombre est connu. Donc nous n'allons pas déployer, cela signifierait nous aurions tous les témoins en un seul lieu et les déployer. Non, c'est plutôt faire venir les listes de témoins, les responsabiliser là où ils sont, les former en vulgarisant la loi, leurs droits, leurs devoirs, en les vulgarisant. Je ne pense pas que ce soit un déploiement où on devrait avoir besoin des Antonov. Il s'agit plutôt des gens qui sont en place et qu'il faut encadrer.
Je rappelle que nous devions également avoir dans ce studio M. Roger Ilumbala, porte-parole de l'Union pour la Nation, qui avait promis d'être là. Malheureusement, il n'y est pas. Que reste-t-il à régler pour avoir des élections transparentes? C'est la deuxième partie de cette émission. Je commence directement cette deuxième partie avec vous, Monsieur Dieudonné Mirimo. Et nous avons une question d'un auditeur qui s'appelle Yves Mbombo de Lemba Salongo, qui veut connaître les dispositions prises par la CEI pour le cas de dédoublement du numéro des cartes d'électeurs qui s'est posé lors du premier tour de la présidentielle.
Oui, effectivement, la Commission électorale indépendante a pris les dispositions pour éviter ce qui a été constaté à Kinshasa particulièrement. Et donc nous allons rendre public le 15 octobre prochain la liste des électeurs par bureau, sera affichée. Mais il est important de souligner ici que les électeurs ne devaient pas considérer seulement le numéro qui est sur la carte d'électeur comme numéro identifiant l'électeur, mais il faut continuer parce que chacun a un nom et un poste nom. Donc vous pouvez avoir le même numéro, mais les deux personnes ne peuvent pas avoir le même nom et le même prénom. Donc il faut lire l'entièreté, les numéros de série, les noms et les postes noms de l'électeur pour savoir exactement si l'électeur se trouve sur la liste électorale qui est affichée au bureau de vote.
Mais concrètement, qu'est-ce que vous avez fait pour que cela ne se répète plus? Est-ce que vous garantissez aux électeurs congolais que ces dédoublements de numéros de cartes d'électeurs que beaucoup d'électeurs ont connus ne va pas se répéter pour le second tour de la présidentielle et pour les élections provinciales?
C'est ce que j'ai dit. Les gens prenaient soin seulement de lire les numéros de la carte et deux ou trois personnes pouvaient avoir le même numéro sans lire les noms de l'électeur. Et donc c'est l'ensemble des numéros et des noms qui constituent la série et c'est sur ça qu'il faut tenir compte de tous ces éléments-là pour pouvoir faire voter l'électeur. Et donc les noms la liste sera affichée, sera rendue publique dans chaque bureau de vote et l'électeur pourra déjà passer pour vérifier si son nom est là. Et il n'y a pas de raison pour que l'électeur ne puisse pas voter, d'autant plus que son nom figure sur la liste électorale.
Monsieur Tchékès, dites-moi, est-ce que ce problème de dédoublement de numéro de carte d'électeur ne s'est pas posé dans votre circonscription électorale du Katanga?
Vous le dites si bien, j'en ai entendu parler à travers des meetings des acteurs politiques ici à Kinshasa. J'en étais même étonné, mais dès lors que la personne attitrée, ça signifie le rapporteur vous dit bien que l'unique
l'identification d'un électeur n'a pas que les numéros comme critère. Faudra-t-il qu'il voie et le nom et son numéro de carte. Je crois que c'est suffisant pour moi. Mais je voulais ajouter un petit mot là-dessus en vous disant, il est facile de critiquer, hein, mais l'art est difficile. Ça signifie cette tendance à croire que le bon est toujours de son côté, n'est pas une vertu pour la reconstruction. Le respect aussi des textes, le respect d'être à l'écoute de l'autre pour dire qu'est-ce qu'il a fait, il peut y avoir eu des irrégularités, mais est-ce qu'une irrégularité peut jeter un discrédit sur tout un mécanisme aussi complexe
difficile. Mais certains acteurs politiques avaient considéré cet incident comme étant de la fraude. Qu'est-ce que vous dites?
Comme j'ai allé dire en début de cette émission, cher ami, vous savez, quiconque n'est pas sûr, il faut sécuriser tout le monde, c'est un droit légitime, mais quiconque n'est pas sûr et crier à la fraude, à tout bout de champ, je pense que mieux vaut respecter les textes, se mettre, dans le cadre de ce qui est fait comme opération, comme approche, c'est beaucoup plus mieux que de jeter toujours l'atmosphère assez stressante sur l'ensemble du pays, ce n'est pas bien.
Monsieur Dieudonné Mirimo, certains acteurs politiques avaient considéré cet incident comme étant de la fraude. Qu'est-ce que vous y répondez?
Oui, je crois que ce n'est pas la fraude. Il faut que les gens comprennent comment les élections s'organisent. Nous ne sommes pas le premier pays à organiser les élections. Ce qui s'est passé, c'est que l'électeur qui se présentait dans un bureau de vote, au lieu qu'on puisse lire les deux composantes de la carte, c'est-à-dire les numéros de série, les noms et les post-noms, donc, il suffisait de lire seulement les numéros pour dire que non, quelqu'un a déjà voté à votre place. Et pourtant, chaque électeur a un numéro qui peut être le même pour deux électeurs, mais les deux électeurs ne peuvent pas avoir le même nom et le même poste nom.
Voilà. Parmi les problèmes qu'il y a eu également, qu'il faudrait régler, M. Dieudonné Mirimo, certaines personnes avaient également perdu leur carte d'électeur lors du premier tour et n'avaient pas réussi à obtenir de la CEI des duplicata de ces cartes pour aller voter. Pourront-ils aller voter cette fois-ci?
Il faudrait que nous puissions respecter les textes qui nous régissent. Donc, quelqu'un qui a perdu sa carte doit aller chercher les duplicata dans un délai prévu par la loi. Donc, si quelqu'un n'a pas cherché les duplicata et il se présente seulement à la veille des scrutins ou le jour du scrutin, il veut voter, certainement qu'il ne va pas voter. Donc, c'est maintenant quelqu'un qui n'a pas sa carte, il peut aller au bureau de liaison ou dans du centre d'inscription où il s'est fait enrôler, et va lui délivrer les duplicata.
Voilà, il y a aussi monsieur Dieudonné Mirimo, donc lors du premier tour de l'élection présidentielle dans certaines parties du pays, comme nous l'avions signalé à Bolomba dans la province de l'Équateur, il y a eu insuffisance des bulletins de vote. Est-ce que vous pouvez garantir à tous ces électeurs qui sont dans cette partie du pays et même dans d'autres parties du pays que cette fois-ci pour les élections provinciales et les second tours de présidentielles, on n'assistera plus à ce genre d'incident pour que tous les Congolais soient traités de façon égale, aussi bien à Kinshasa qu'à l'intérieur du pays?
En tout cas, je peux garantir à tous les électeurs qui vont voter, comme je l'ai dit, les kits électoraux et les bulletins de vote sont présentement dans les territoires en train d'être déployés, et nous avons pris soin de vérifier les quantités de bulletins prévus par circonscription, par centre de vote et par bureau de vote. Et donc tous les électeurs pourront voter, il n'y a aucune circonscription, aucun bureau de vote qui se retrouvera sans bulletin de vote.
Mais votre réaction, M. Tshikese Diemo?
Je crois qu'il venait de le dire, c'est la deuxième fois qu'il persiste. L'erreur est humaine, persévérer, dit-on, c'est diabolique, mais qu'il nous rassure en sa qualité de rapporteur que cette faille qui a eu lieu au premier tour en ce qui concerne le nombre de bulletins insuffisant, il faut absolument que tout citoyen congolais ait droit, disait, n'est-ce pas, de son devoir civique. Et je pense que c'est bien. Qu'est-ce qu'on peut dire encore d'autre?
Est-ce que ça s'est posé, ce genre de problème, dans vos circonscriptions électorales du Katanga?
Comme je voulais dire d'entrée de jeu, que la plupart des problèmes qui m'ont été soumis sont d'ordre sectoriel, les Katanga en tout cas. Rien ne nous a été signalé en ce sens-là. Les choses se sont, par contre, très bien passées. Mais peut-être au Katanga, les difficultés que nous avons eues, c'est le positionnement des bureaux très éloignés des électeurs. Il y a des gens qui devraient faire 80 km, 40 à l'aller et 40 au retour. C'est un problème sérieux. J'aurais bien voulu peut-être que la CEI s'y pense très sérieusement et examiner un peu la possibilité de rapprocher certains bureaux. Ils ont peut-être des raisons qui leur sont propres, mais ça, c'est un problème qui donne la chance à tout le monde, parce que quelqu'un qui doit faire 80 km pour exercer son devoir civique, disons-le quand même qu'on doit s'y pencher. La ville n'est pas la même chose que la campagne. Ça, c'est assez fondamental, je pense.
Voilà, Monsieur Dieudonné Miromou, je vous renvoie la balle. Quelles dispositions avez-vous prises pour rapprocher les électeurs de bureaux de vote?
Malheureusement, pour le scrutin du 29 octobre prochain, il ne sera pas possible de corriger les listes, les bureaux de vote. Parce que nous avons déjà indiqué que les gens qui étaient impatients, qui n'ont pas attendu que l'équipe arrive dans leur village, qui se sont empressés à aller se faire arroler dans les villages voisins, qui ont parcouru de longues distances pour aller se faire arroler. Et nous avons indiqué que chacun retournait dans les centres d'inscription où il s'est fait arroler pour voter. Nous allons plutôt corriger lors des scrutins locaux. À ce moment-là, nous aurons beaucoup d'états, et parce qu'il faut aussi vulgariser, il faut informer ces électeurs qu'ils vont voter à tel endroit, sinon on risque de les dérouter et ne pas donner l'occasion de pouvoir voter parce qu'ils ne sauront même pas là où leur nom se trouve, dans les bureaux de vote.
Nous sommes toujours dans la deuxième partie de cette émission et nous nous posons la question de savoir qu'il reste-t-il à régler pour avoir des élections transparentes. Monsieur Dieudonné Miromou, je rappelle que vous êtes rapporteur de la commission électorale indépendante et vous intervenez depuis Chimbulu dans le Kasaï occidental. Le journal Tempête des Tropiques, dans son édition d'aujourd'hui, parle de l'achat de cartes d'électeurs à Massina, à Kinshasa, par un politicien membre d'un de deux camps en course pour la présidence. Après en avoir prélevé les numéros, il leur a remis ses cartes d'électeur. Quelle est votre réaction par rapport à ce fait?
Je crois que s'il y a des faits prouvés, la justice est là pour agir. Il ne suffit pas de dire tel politicien a acheté des cartes, il faudrait qu'on nous apporte la preuve et la justice va faire son travail. Parce que chacun se présente individuellement pour aller voter. Quand un politicien achète les cartes, je ne sais pas ce qu'il va en faire. Parce que quelqu'un ne peut pas rentrer deux fois pour voter parce qu'on applique l'encre indélébile sur le doigt de la personne qui a déjà voté.
Monsieur Dieudonné Miromou, il y a JP Essengue de Mbandaka dans l'Équateur qui invite les témoins à être très vigilants car la tricherie est toujours possible. Pour ce qui est des élections du 29 octobre prochain, est-ce que vous pensez que Monsieur JP Essengue de Mbandaka a raison?
Bon, c'est son droit. De toutes les manières, nous organisons des élections libres, démocratiques et transparentes. Je ne pense pas que ce qu'on a fait, on pouvait faire mieux que ça. Un bureau de vote qui se transforme en bureau de dépouillement et les résultats sont affichés au sortir des bureaux de vote. Le reste, c'est de l'imaginaire. Les gens se mettent en tête qu'il y a eu tricherie. Quand quelqu'un a échoué, il cherche toujours des échappatoires.
Donc vous
êtes clair, en tout cas, observateur, témoin, journalistes sont invités à suivre les opérations dans les bureaux de vote et de dépouillement.
Donc, M. Dieudonné Miromou, vous voulez nous dire que dans les élections prévues pour le 29 octobre prochain, il n'y a aucun risque, il y a un risque zéro de tricherie?
Non, ça je ne peux pas dire. Comme je l'ai dit, il n'y a pas d'élection parfaite. Ça n'existe pas. Nous aurons certainement des cas isolés, mais qui ne peuvent pas influencer les résultats des élections.
Votre réaction, M. Tchékez?
Nous avons 25 millions d'électeurs. Si on a 5, 10 ou 100 cas constatés, sur 25 millions, ça ne peut pas influencer les résultats des élections. C'est ce qui est important, à mon avis.
Votre réaction, M. Tchékez Diemon?
Vraiment, je partage l'essentiel de ce que venait de dire le rapporteur. Parce que Kinshasa aussi, c'est ça sa particularité. Sans preuve, sans faits vérifiables, on passe à la télévision, on dit de n'importe quoi, je rends ça dans l'apprentissage de la démocratie. Je crois que le fait vérifiable, c'est de dire j'ai trouvé cela. Je crois que ce qu'il vient de donner comme explication, c'est tout à fait valable, mais quant à la préoccupation de notre sœur, n'est-ce pas, de l'Équateur, elle est tout à fait fondée, nous l'avons dit. Dans
notre frère, il s'appelle JP Essengue.
Merci bien, JP Essengue, c'est tout à fait fondé. Encore une fois, nous revenons pour sécuriser les uns et les autres l'emplacement des témoins dans les différents bureaux est essentiel. Et cela ne dépend que des acteurs. Mieux vaut prévenir que guérir. Je pense qu'il est plus facile de placer tous ces témoins que de venir par la suite dire, écoutez, moi on m'a fait ceci ou cela. Nous pouvons l'éviter.
Avant de passer aux opinions de nos auditeurs, Monsieur Dieudonné Mirimo, il y a Doris de Kananga au Kassai Occidental qui dit, malgré l'assistance des témoins, il y a risque de fraude pendant le transport des plis des provinces vers Kinshasa. Votre réaction?
Là, je voudrais vraiment rassurer les uns et les autres. Ce n'est pas possible de le faire parce que les plis sont emballés. J'ai eu à faire une démonstration devant les journalistes que les enveloppes qui sont utilisées dans l'emballage sont sécurisées. S'il y a tentative d'ouverture, il y a la mention fraude qui apparaît. Et c'est seulement le destinataire qui ouvre. Il n'ouvre même pas, il coupe à l'aide des ciseaux.
Voilà.
Donc cela n'est pas possible.
La loi, en son chapitre 5, la loi électorale, stipule très clairement qu'il appartient aussi aux témoins d'accompagner jusqu'au lieu de compilation.
Voilà, bonsoir Babel Pongo.
Bonsoir.
Nos auditeurs nous ont écrit, est-ce que nous pouvons entendre ce qu'ils pensent du thème de ce soir?
Oui, nous avons Omar à Minova au Nord Kivu. Il pense que la plupart des témoins des partis politiques ne savent pas ce qu'ils doivent faire dans les bureaux de vote et de dépouillement. De même, Benoît Mouteba de Kananga au Kassai Occidental pense qu'il faut apprendre à ces témoins ce qu'il faut faire pour que leur présence ne soit pas qu'une formalité. Bernard Tchinyemba de Kalemi au Katanga dit que les témoins doivent être honnêtes. Ils doivent éviter de rapporter des mensonges après l'échec de leur candidat. Pour Freddy Aguemina Équateur, la CEI doit payer quelque chose d'important à ses agents pour ne pas faciliter la corruption. Patrick de Bounia dans la province orientale demande aux plateformes de deux candidats de s'acquitter librement de leurs devoirs vis-à-vis de leurs témoins. Atibou de Kamina au Katanga dit que certains témoins des partis politiques aimeraient recevoir leur prime avant les élections du deuxième tour. Un autre auditeur pense qu'envoyer les listes des témoins à la CEI ne suffit pas. La CEI doit se réorganiser pour éviter des irrégularités. Enfin, Alpha de Mwanda au Bas-Congo pense que pour des élections transparentes, la CEI doit améliorer les conditions de ses agents dans les bureaux de vote.
Votre réaction, M. Tchekev Guimon?
Elle est vraiment une réaction de reconnaissance, autant que tous ses frères et sœurs dans toutes les provinces, ils ont compris le rôle historique de ces élections et tout ce qu'ils suggèrent, je pense que ça ne mérite même pas un commentaire. Rien de plus normal qu'on vulgarise, parce qu'on ne peut pas vous donner un travail sans que vous sachiez ce qu'on attend de vous. Il me semble que c'est ça le rôle aussi des partis politiques. Et la CEI devrait aussi prendre cela en compte, mettre à la disposition des partis politiques les éléments pour la vulgarisation. Parce que si je prends le premier tour, en tout cas nous avons eu de très sérieuses difficultés pour avoir même les spécimens. Nous avons eu de très sérieuses difficultés pour savoir comment voter. Je pense que leurs préoccupations sont tout à fait fondées.
Votre mot de la fin, M. Dieudonné Mirimo. Réaction par rapport aux...
J'ai noté que les témoins doivent être formés pour connaître leurs droits et leurs devoirs. Mais ce qui concerne nos agents électoraux, ils ont été payés et il n'y a pas eu de réclamation sur l'ensemble du territoire national. En tout cas, nous avons pris toutes les dispositions pour que les scrutins du 29 octobre prochain se passent dans les très bonnes conditions et que les maires gagnent.
Préparatif du second tour de la présidentielle et des élections provinciales à une semaine du début de la campagne électorale pour le deuxième tour de la présidentielle. À Caen, le dépôt des listes des témoins de deux candidats qualifiés pour le second tour auprès de la Commission électorale indépendante, le dépôt des listes des témoins de deux candidats à la présidentielle va-t-il contribuer à réduire les irrégularités et autres contestations relevées lors du premier tour? Et que reste-t-il à régler pour avoir des élections transparentes? C'était là les questions auxquelles on a répondu avec deux invités, Dieudonné Mirimo de la Commission électorale indépendante et M. Tchekev Guimo, vice-gouverneur, qui a représenté l'Alliance et la majorité présidentielle. M. Roger Lumbala de l'Union pour la Nation, plateforme soutenant le candidat Jean-Pierre Bemba, devait être là. Malheureusement, il nous a faussé compagnie. Nous nous retrouvons demain. Cette émission sera rediffusée à 4h45 heure de Kinshasa et 5h45 heure de l'Est du pays. Vous pouvez également l'écouter en ondes courtes de 5h à 7h sur 11690 kHz et sur Internet. Vous pouvez l'écouter sur www.radiokapi.net. Merci à l'équipe technique. Merci à l'équipe de dialogue entre Congolais qui a préparé cette émission. Au revoir et à demain.
Okapi, Okapi.